nos lieux enchantés, une histoire mariant causerie, chansons et patrimoine.
Réalisé par la Compagnie des Histoires en Musique, en partenariat avec la communauté de communes du Pays Mornantais.
Mais quand quelqu'un du château arrivait, tout le monde s'écartait pour laisser la priorité au châtelain. Qui le pauvre est mort en Angola parce qu'il voulait faire la guerre c'était beau, et il y a laissé ses os, le pauvre. Mais c'est vrai, je pense que quand on quitte son pays, de toute façon, hein, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hein. Des petites filles qui sont arrivées, qui ne connaissaient pas le chocolat. Elles n'avaient jamais goûté un carré de chocolat. Qui arrivent de la ville, continuent à garder leurs habitudes de ville. On ne dit pas bonjour aux gens de son immeuble, on ne les connaît pas. Le banc devant la maison de mes grands-parents était tous les soirs occupé à la belle saison et les gens discutaient, prenaient le temps d'échanger. Maintenant, vous voyez que passer des voitures. Les vacances étaient longues. On était très peu nombreux. J'allais souvent accompagner une bergère, histoire de m'occuper un peu, parce qu'il n'y avait absolument rien. Mais alors, ce qui s'appelle rien.
À deux pas de Lyon, le pays mornantais. Un plateau, des coteaux, un pays dans le pays.
Je suis Romain Lateltin, enfant du pays.
Et moi, je suis Théophile Hardy, enfant fraîchement adopté. Nous avons une mission. Explorer le pays mornantais, sa culture, son patrimoine, ses visages, ses paysages, pour trouver ce qui relie ces 30 000 âmes.
Nous allons causer avec les gardiens des histoires et légendes, ayant traversé le territoire et les années. Nous allons sillonner le pays pour capter sa vibration et tenter d'écrire des chansons qui racontent son histoire en musique.
Notre cap, le festival itinérant Nos lieux enchantés, qui invitera des artistes à chanter leurs propres chansons et celles du lieu, décor de leur spectacle. Pour vivre notre pays mornantais avec nos cinq sens.
Pour explorer ses couplets, traverser ses ponts et entonner ses refrains en chœur.
Pour en chanter nos lieux.
Bonjour, bonjour. Alors nous voilà au 9 rue du Tour à Chassagny et nous avons cette joie très particulière pour cette causerie. C'est la première fois qu'on fait ça, qui se passe en deux temps finalement, puisqu'on a reçu André Montet il y a quelques semaines. Et pour compléter notre causerie sur Chassagny, nous avons la joie d'être dans le magnifique jardin au cœur de Chassagny, chez Yvette Payès, qui nous reçoit ici sur sa table de jardin. On est bien, on sent déjà l'atmosphère, on sent que Yvette a envie de nous raconter plein de choses, voilà. Bonjour Yvette, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ?
Ah ah, un exercice difficile. Bon, ben moi je suis un enfant du pays. Je suis arrivée à Chassagny, j'avais 10 jours exactement, puisqu'on restait 10 jours à la maternité. Bon, je suis restée quand même bien 30 ans à Saint-Étienne, mais je suis revenue ici. Sans problème. Donc la Loire, je connais moi aussi. Et donc, je suis très attachée à mon village. J'ai des racines très profondes. Je fais de la généalogie et je retrouve mes ancêtres toujours à Chassagny depuis la première page du registre, du premier registre de Chassagny. Et mes ancêtres, du côté de ma maman, sont originaires de Chassagny depuis la première page du premier registre à Chassagny en 1637. Donc comment ne pas être attaché au village ?
Tu dis que tu as vécu 30 ans à Saint-Étienne, c'est ça ? Donc ça veut dire que tu as fait ta jeunesse ici ? Comment ça s'est passé, ton parcours de vie ?
Ah ben, bien sûr, j'étais ici jusqu'à ce que je sois nommée à Saint-Étienne.
Nommée en tant que ?
Alors j'étais secrétaire d'administration universitaire, j'étais nommée à l'inspection académique de la Loire et ensuite à la direction départementale de la jeunesse et des sports, toujours de la Loire. Mais nous étions là tous les week-ends.
Alors je rappelle ici qu'on est vraiment aussi aux portes de la Loire, hein, parce qu'on est presque à la frontière de la Loire. On dit souvent le pays mornantais, c'est vraiment le point du milieu entre Lyon et Saint-Étienne. D'ailleurs, oui. Pour l'anecdote, ah, oui. Hein, y a beaucoup de petites histoires footballistiques.
Bien
hein,
sûr, il y en a la moitié qui supporte les Verts et l'autre moitié l'OL.
C'est
bon,
vrai.
Ça se passe en famille, là, on ne se bagarre pas. Mon mari est supporter des Verts, d'ailleurs. À Saint-Étienne, nous habitions en face de Geoffroy Guichard.
Et à quel moment tu es revenu du coup, donc après ta carrière professionnelle ?
Disons, quand mon mari a été en retraite, bon, comme il a des soucis de santé, il était difficile pour lui de rester au sixième et dernier étage de notre immeuble. Alors qu'ici, ben, on connaît tout le monde. Quand on arrive à l'âge de la retraite, c'est pas à ce moment-là qu'on se fait de nouvelles connaissances. Parce qu'on n'a plus d'enfants à l'école, et c'est plus difficile. Alors qu'ici, ben, on connaissait tout le monde.
Alors tu parlais de généalogie, je rebondis là-dessus. On a une question qu'on a envie de poser. Est-ce que tu peux nous raconter du coup l'histoire de tes ancêtres ici à Chassagny ? Est-ce qu'il y a eu des gens, des personnalités qui ont marqué le village ?
Mon grand-père, tout simplement. Mon grand-père a été maire de la commune pendant 47 ans. Il a été conseiller général, il a été député. Donc je veux dire, je suis très fière de Jean-Marie Fillon, mon grand-père. Qui habitait là, la grande maison à côté.
D'autres peut-être, peut-être encore plus anciens.
Et alors ils étaient tous agriculteurs, vignerons surtout. Parce qu'à Chassagny, avant, on ne s'en rend plus compte à l'heure actuelle, mais sur le plateau, quand vous arrivez de Mornant, où vous voyez un véritable désert, surtout aujourd'hui puisque les moissons sont faites, hein, c'était que des vignes pratiquement de partout. Alors, le vin, c'était sans doute pas un vin très, très alcoolisé, je ne sais pas, mais il était très prisé des ouvriers, des verreries, notamment de Givors et de Rive-de-Gier.
Ah, c'est intéressant d'entendre ça, parce que sur les autres causeries qu'on a fait plutôt côté Souciant-Jarret-Saint-Laurent-d'Agny, on a appris que les mineurs de Saint-Étienne venaient, faisaient un échange de bons procédés, c'est-à-dire livraient le charbon en échange de quelques litrons, pour faire la rime, pour les mineurs. Donc ici, on était plutôt en effet sur, parce que je rappelle que Chassagny est vraiment le balcon de Givors, oui. On est juste au-dessus de Givors, et en effet, à Givors, il y a toute cette histoire de la verrerie.
Les verreries, oui, bien sûr. Oui, les verreries, puis il y avait beaucoup d'usines aussi. Et c'est vrai qu'il y avait de nombreuses personnes qui venaient ici et des dames Jeanne qui, quelquefois, se cassaient en cours de route sur le vélo en descendant parce qu'ils avaient un petit peu trop arrosé.
Pour enchaîner sur justement les verreries, la population de Chassagny à cette époque-là, j'imagine beaucoup travaillaient à la verrerie ou il y avait beaucoup aussi d'agriculture ?
Non, il y avait beaucoup d'agriculture. C'est vrai que pratiquement toutes les maisons étaient des fermes, presque toutes. Mon papa, non, lui, il était maçon. Mais mis à part le maçon et le maréchal Ferrand, tous les autres avaient des petites fermes, souvent, avec quelques bêtes. 4-6 vaches, pas plus, 2 chèvres, 2-3 brebis aussi. Et quelquefois, c'est vrai que le mari travaillait à l'usine, ça arrivait. En fait, quand les gens travaillaient à Givors, ils habitaient plutôt à Givors parce qu'ils trouvaient que c'était loin, à ce moment-là.
Oui, parce qu'à l'époque, il fallait, comme tu disais, c'était le vélo, quoi.
Bah exactement, et la côte, elle est sévère. Bon, pour aller à l'école, c'était ça, c'était le vélo, et puis voilà.
Quand on vient de Givors, on passe par le bois de Montrond et en effet, c'est
même assez... pas, tu passes par où ? Directement là, devant l'hôpital de Montgelat.
Ok.
Les Vernes, on monte là et la côte là, elle est particulièrement rude, c'est vrai.
C'est vrai, quand on croise des vélos, on a peine pour eux, encore
et
aujourd'hui.
Et encore maintenant, les vélos sont plus perfectionnés, il y a plusieurs vitesses, ils sont plus légers, alors que là, croyez-moi, en plus, quand vous étiez scolaire, vous aviez le cartable avec tous les bouquins, etc., il fallait traîner tout ça. Et c'est vrai que quand mon papa avait un chantier sur Givors et que j'arrivais à mettre le vélo dans la camionnette, croyez bien que c'était avec plaisir. Il n'y avait pas de car.
Est-ce que comme à Saint-Andéol-le-Château, parce qu'on a appris ça, notamment avec la verrerie, il y avait beaucoup une immigration italienne et portugaise ?
Alors, c'était pas pour la verrerie, c'était pour les carrières. Il y avait beaucoup de carrières de granit à Chassagny. Il y avait celles qui étaient à la frontière pratiquement avec Montagny, et puis celles qui étaient près du Mornantel à Oga, avec un granit plus sombre, dont on trouve des monuments aux morts, au cimetière, qui sont faits dans ce granit, qui est très beau. Alors côté Montagny, c'était plus des bordures de trottoirs, etc. Mais il y avait beaucoup de familles italiennes, oui.
À Saint-Andéol, il nous expliquait qu'il y avait, je crois, sur 600 habitants, peut-être 150 immigrés à l'époque portugaise, je crois, qui sont arrivés à peu près en même temps. Et qu'il y avait à l'église, par exemple, le curé qui partageait la messe, le curé portugais qui partageait la messe avec le curé du village.
Ah bon, non, il n'y en avait ici. Pas autant. Non,
c'est
non.
Surtout qu'il y en avait certainement moins.
Non, il n'y en avait pas tant, non, ouais. Non, c'est sûr.
Parce que c'est un quart.
Il y avait plus d'Italiens, c'est vrai. Des Portugais, il y en a eu assez peu. Nous, on en a bien connu parce que mon papa en a eu comme apprenti notamment. Le pauvre est mort en Angola parce qu'il voulait faire la guerre c'était beau, et il y a laissé ses os, le pauvre. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques Portugais qui sont venus d'abord, qui envoyaient de l'argent à leur famille là-bas, et puis petit à petit ils ont fait venir la famille. Moi je sais ce qui m'avait frappé, c'est des petites filles qui sont arrivées, qui connaissaient pas le chocolat. Ils n'avaient jamais goûté un carré de chocolat. Moi à ce moment-là je devais avoir 14-15 ans, ça me semblait... incroyable. Je veux dire que même dans les familles les plus modestes, les enfants savaient ce que c'était que le chocolat, même s'ils n'en avaient pas sans arrêt, mais et là, ils ne savaient pas. Ils étaient vraiment malheureux, quoi. Mais c'est vrai, je pense, quand on quitte son pays, de toute façon, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement, certainement.
C'est important de le rappeler.
Ben oui.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, par exemple, sur l'église à Chassagny?
Parce que l'église, elle a été remaniée. Elle n'était pas du tout comme ça. Elle n'est pas tournée dans le bon sens là, actuellement. Depuis qu'elle a été agrandie, elle a pivoté. D'ailleurs, il y a des morceaux de pierre qui sont un petit peu de partout de l'église, notamment sur la première maison sur la route de Montagny. On voit des morceaux de pierre qui sont dans le mur, qui viennent de l'ancienne église.
La place, elle a toujours existé, cette place.
Il n'y avait pas des habitants comme ça. Il y avait des maisons là. La place, en fait, c'est le carrefour entre la rue de la Foltière et la route qui descend la rue de la Chaudanne. C'était là la place du Trèves, la place. Et puis il y a des maisons qui ont été démolies, qui valaient sans doute pas bien la peine de garder, qui ont dû se démolir aisément. De même la route. Elle passait pas du tout où elle est maintenant. Elle passait plus droite le long de l'église. Il y a une ruelle et ça se continuait tout droit dans ce qui est maintenant un hangar. Ça a été après on a contourné un petit peu les propriétés peut-être.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette petite place là, on sent que c'est très ancien. Hein, ces petits trucs qu'il y a.
Oui, la ruelle Saint-Blaise là. Oui.
C'est très mignon.
Hein. Oui, là, c'est bien. Oui.
Alors, on peut pas parler non plus de Chassagny sans parler du château.
Ah ben, le château, surtout et surtout des châtelains, si je puis dire. Parce que c'était quelque chose. Même quand j'étais petite fille, on avait une épicerie au village. Marie jamais. Où on trouvait absolument de tout. L'épicerie, bar, tabac, tout. Mais quand quelqu'un du château arrivait, tout le monde s'écartait pour laisser la priorité aux châtelains. Ils avaient leur banc à l'église. À gauche, deux bancs, c'était pour le château. C'était un petit peu le passage obligé. Pourtant, ça datait quand même, la Révolution.
Et tu as connu, les enfants de ces châtelains?
Oui, je connais toujours, oui. Le plus jeune, maintenant, parce que bon, il y a eu pas mal d'histoires quand même, mais le plus jeune, le frère de l'actuel propriétaire, qui vient de vendre, puisqu'il va y avoir des appartements dans le château, Michel et mon conscrit. Bon, ils venaient de temps en temps chercher un peu de ciment pour bricoler, parce que ils étaient terribles, les garçons, à l'époque. Et ils faisaient enrager le jardinier, parce qu'ils faisaient un petit peu des sottises de garçons de leur âge, et le jardinier n'osait pas dire grand-chose, c'était les enfants. Il y avait des fêtes au château. Ils prêtaient leur parc pour certaines fêtes.
Et toi, en tant qu'enfant, ce château, comment il était perçu? Est-ce qu'il y avait un côté hyper légendaire, hyper grandiloquent, avec un peu de mystère, même pas?
Moi, je préférais la ferme du château, parce que j'avais les copines qui étaient là-bas, c'était bien. On faisait des parties de cache-cache dans les granges qui duraient tout le matin. Il fallait pas que maman ait besoin du lait trop tôt dans la matinée, parce que je rentrais juste à midi. Non, le château, il venait que l'été, de toute façon. On les connaissait assez peu, ils ne fréquentaient pas les gens du village, tout compte fait.
J'ai envie de poser une question comme ça aussi. Ta jeunesse d'enfant à Chassagny, c'était comment?
Les vacances étaient longues. On était très peu nombreux. J'allais souvent accompagner une bergère, histoire de m'occuper un peu, parce qu'il n'y avait absolument rien. Mais alors, ce qui s'appelle rien. Il n'était pas question d'aller à la piscine, il n'y avait pas... Il n'y avait rien. Mes parents n'auraient pas voulu que j'aille me tremper dans le Rhône. Hein. C'était trop dangereux.
Et est-ce que Chassagny, à ton époque, était comme aujourd'hui ? Bon, voilà, on a le moyen de transport, etc. On est très lié avec Mornant, avec Lyon, etc. Et est-ce que, enfin, ce qu'aujourd'hui on appelle le pays mornantais, est-ce qu'à Chassagny, il y avait des connexions avec Mornant, notamment ?
Non, ce n'était pas notre canton. Il y avait la 42 qui faisait la délimitation, hein, c'est vrai. Les gens se sont, si on veut, se sont rapprochés de Mornant par les scolaires quand ils sont allés au collège à Mornant. Mais sinon, nous, le collège, c'était Givors. On n'avait absolument rien à faire à Mornant. Enfin, moi, j'y allais de temps en temps parce que j'avais un oncle là-bas. Mais ben, sinon, on allait au marché à Givors. C'était Givors, c'était pas Mornant.
Et c'est vrai qu'en étant de ce côté-là, je rappelle, hein, c'est vrai que Chassagny, il y a ce qu'on appelle les fameuses montagnes russes dont le nom est la départementale 42. Et voilà, Chassagny, Saint-André-le-Château, Saint-Jean-de-Toula, et après on arrive sur la Loire. C'est vrai qu'on est plutôt du côté flanc.
C'était le versant, et puis c'était le canton. À l'époque, c'était la seule connexion, alors que maintenant, vous avez 36... connexion, hein. Les communautés de communes, vous avez le canton. Passé un temps, on a fait partie du canton de Saint-Symphorien-d'Ozon. Alors ça m'a toujours épaté parce qu'on n'avait jamais rien eu à faire de l'autre côté du Rhône.
C'était à quelle époque, ça ?
Juste avant, là, les dernières élections. Mais comme on a été raccroché Beauvallon, Saint-Jean-de-Toula et Saint-Andéol faisaient partie du canton de Mornant. Et nous, Chassagny, commune de Beauvallon, faisait partie du canton de Saint-Symphorien-d'Ozon. Alors là, il y avait quand même mal donne. On nous a rapprochés de Mornant, ce qui semble plus simple quand même.
C'est plus logique. Mais moi, petit, hein, en étant de Saint-Jean-de-Toula, on faisait partie du canton de Givors, en effet. Si vieux que ça.
Mais non, c'est vrai.
Et puis, il y a aussi ces histoires de codes postaux. Là,
qui... Oui, 69-700, c'est Givors.
Quels sont, Yvette, d'après toi, les trésors à connaître à Chassagny pour quelqu'un qui arriverait ici, un primo-arrivant ? Tu aurais envie de lui faire, de l'emmener où ?
Oh ben, au bord du Mornantais, bien sûr. Parce qu'alors là, c'est d'une tranquillité. Bon, on n'y accède pas en voiture. Donc, il n'y a pas de papier gras, il n'y a pas de boîte de sardines. C'est super, c'est joli comme tout. Je dirais que maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours de l'eau. Hein. Mais au printemps, c'est magnifique. Hein. Vous avez des fleurs remarquables. C'est la tranquillité assurée. Hein. On peut faire mais quantité de promenades au Mornantais.
Tu es toujours émerveillée ?
Ah oui. Ah oui, oui.
Si tes amis arrivent un week-end complet, tu irais où ensuite ?
Eh bien, ça s'est produit. On a eu des cousins lointains qui sont venus du Canada, toujours par la généalogie. Hein. Et on les a emmenés au château. J'avais demandé l'autorisation au propriétaire de visiter le parc, mais il nous avait même ouvert le château. À l'époque, il y avait encore tout dedans. Et puis l'église, hein, qui est quand même pas mal. Le centre du village, c'est vrai. Et également à Lavore, hein, à la limite avec Montagny. C'est joli. Et puis toutes ces landes-là qui sont classées en zone biotope, où vous avez aussi une faune et une flore qui est réputée. Même si on dit les landes de Montagny, en fait, il y a une grosse partie qui est sur Chassagny, je vais faire ma chauvine. Mais mon papa est né à Montagny, donc personne ne m'en voudra. Hein.
Mais c'est intéressant que tu évoques ça, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe là, vers Montagny, mais tu vois, je ne savais pas qu'il y avait une grosse partie à Chassagny. C'est vraiment, on a l'impression d'être ailleurs.
Oui.
Hein, ces landes, là, comme ça, comme tu dis, c'est vraiment assez fou. Puis c'est avec ce Montagny qui est un peu au-dessus aussi, c'est très particulier. Hein. On peut dire aux gens d'ailleurs d'aller visiter aussi Montagny, hein. Ce sont les voisins d'à côté.
Tout à fait, vous savez, Montagny, ça fait penser un peu à Pérouges, qui a une renommée extraordinaire. Il y a une vue remarquable de là-haut. C'est...
Le petit Pérouge.
Le petit Pérouge, voilà. Là, je vais quand même en profiter pour dire que l'église de Montagny, pas en haut, pas la vieille église, la petite église de Montagny a été construite par mon grand-père paternel, Léonard Martineau. Elle a été inaugurée en 1911 et en 2011, et on a fait une cousinade. Hein, tous les descendants de Léonard, on était 100 et quelques.
Une grande histoire familiale quand même, Yvette, oui, parce oui, que oui. entre ton grand-père qui a été maire,
Ah, mais je suis très
député...
fière de mes grands-pères. Mais mon grand-père paternel était natif de la Creuse, ma grand-mère aussi. Mmh. Et ils sont venus s'installer tout de suite après leur mariage. C'était les maçons de la Creuse. Voilà.
Une anecdote personnelle, mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père étaient aussi ce qu'on appelait les maçons de la Creuse. Ils étaient à Saint-Genis-Laval, famille urbaine.
Et ils venaient d'où donc ?
Alors, je ne saurais pas te dire exactement. Ils habitaient
Quel nom, il faut chercher.
Non, mais je le sais. Enfin, j'ai les infos, mais là, je ne suis pas capable
de
dire.
Ils sont
de
Royère, dit Royère de Vassivière à l'heure actuelle. Mais à l'époque, nettement moins touristique. Et bon, ben, il fallait vivre et donc ils s'étaient expatriés.
Mais je te dirais, parce que peut-être que là, c'était la famille urbaine. Bref.
Urbain, oui, j'en ai quelques-uns dans mon arbre.
Ah ben, il serait peut-être possible que nous ayons quelques gouttelettes de sang en
Et
commun.
Pourquoi pas ?
Ben, on ne sait pas, c'est vrai. Mais je ferai la recherche, je te dirai. À l'époque, à Givors, il y avait cette autoroute fluviale, on va dire. Beaucoup de bateaux. Et tu as connu, avant qu'il y ait l'autoroute ? C'était comment ?
À la place de l'autoroute, le canal arrivait donc dans le Rhône et au bord, il y avait des commerces, hein, des bistrots, bien sûr, forcément. Mais ben, j'ai vu construire l'autoroute, c'est vrai. Oui, oui.
On reviendrait bien en arrière quand même. Hein.
Bon, fou et non.
À la place
hein,
de l'autoroute, non ?
Ben, mais comment on ferait, nombreux comme on est ? Déjà que cette autoroute est saturée la plupart du temps.
Grand-main est très nostalgique.
Mais j'ai pas connu tout ça.
C'est ouais. peut-être pour ça que tu regrettes ce temps.
Non, je crois que bon, chaque chose en son temps. Bon, moi, ce que je regrette plutôt, c'est l'esprit de convivialité qu'il y avait au village. Maintenant, comment dire ? Nous, on a la chance d'habiter carrément au cœur du village, donc ça n'a pas changé. Mais sinon, c'est devenu un petit peu trop un village dortoir, quoi, tout compte fait.
Et d'où ça vient, d'après toi ? Pourquoi ?
Je pense que certains qui arrivent de la ville continuent à garder leurs habitudes de ville. On ne dit pas bonjour aux gens de son immeuble, on ne les connaît pas. Ils sont dans l'immeuble d'ailleurs. On voit régulièrement des gens qu'on retrouve qui sont décédés depuis 3 semaines. Personne ne s'est inquiété. Bon. Ici, je veux dire que ça sera presque la même chose, quoi. Moi, ce qui me désole, on m'a appris petite à dire bonjour à tout le monde. Je connaissais tout le monde au village. On était, quand on s'est marié, on était 400 et des poussières dans tout le territoire de la commune. Donc, il y a belle lurette. Hein. Maintenant, si du temps où je promenais le chien de maman, là, que j'ai plus, on me disait bonjour parce qu'on me disait c'est quelle race, il s'appelle comment, il est méchant. Bon, mais si je suis toute seule, j'ai dit bonjour messieurs, dames, on se retourne, on me regarde d'un air dire mais qu'est-ce qu'elle nous veut cette vieille ? C'est la grande différence.
Comme on dit souvent, c'est l'individualisme qui est beaucoup là. C'est le confort qui fait qu'on sort plus de chez soi,
oui,
moins.
Oui, et puis les gens courent beaucoup et ils n'ont pas le temps, ils ne prennent pas le temps. Autrefois, le banc devant la maison de mes grands-parents était tous les soirs occupé à la belle saison. Et les gens discutaient, prenaient le temps d'échanger. Maintenant, vous voyez que passer des voitures, le 30 à l'heure ne le respecte pas, même pas le stop. Bon, je veux dire qu'on est tellement pressé de rentrer que...
C'est toujours assez contradictoire parce qu'on vit dans une période où on a plus de vacances, on travaille moins, alors qu'à l'époque, les gens travaillaient 60 heures par semaine dans les champs, etc. Enfin, voilà. Et finalement, ils avaient presque plus de temps. C'est fou, ça, quand même.
Moi, non, pour moi, c'est assez simple à expliquer. On est aspiré par les écrans, les gens veulent rentrer chez eux le plus vite possible. Le temps qui est gagné est perdu par l'envie d'aller voir très très loin ce qu'on a sous les yeux. Donc, nous, c'est aussi notre approche, tu vois, quand on fait nos lieux enchantés, on en a parlé un peu auprès de tout le monde. On a pour ambition, on essaye, humble ambition, de faire des choses qui réunissent les familles, les générations, sur du spectacle vivant, des causeries comme ça, prendre du temps pour essayer de comprendre. Tu vois, moi j'arrive dans le pays mornantais à Soucy-en-Jarret, je serai bientôt habitant du pays. Moi je suis prêt à faire tous les efforts du monde, mais comment je peux arriver, tu vois, et rencontrer mon voisin.
Oui, c'est vrai que c'est pas
comment
facile.
Je peux faire, surtout si j'ai pas d'enfants à l'école, parce
et
que
ben
si
voilà,
j'ai des
c'est
enfants
ça,
à l'école.
Problème. Quand on a des enfants à l'école, ça va tout seul, on s'intègre très facilement. Bon, là, pendant des années, je me suis occupée de la bibliothèque. On rencontrait déjà ceux qui, au moins, ont envie de lire. Et déjà ça. Mais sinon, c'est difficile, quoi.
Ouais. Toutes les l'école, les associations, les médiathèques, c'est des lieux...
Des lieux de rencontre.
Des lieux de rencontre. Nous, on fait aussi ce pari que les gens satureront ou saturent déjà de virtuel. C'est-à-dire de trouver... On pense qu'il peut y avoir à un moment donné un équilibre. On ne va pas revenir en arrière.
Non, là, ce n'est pas possible. Bon. Hein.
Mais par contre, trouver un équilibre, ça, on y croit beaucoup. Entre le réel, les vrais gens, les gens qu'on rencontre tous les jours... Et aussi les gens qu'on peut côtoyer.
Mais c'est vrai que
du monde,
quand j'étais gamine, il n'y avait pas la télé. Elle est venue, la première émission que j'ai vue, mon grand-père a acheté la télévision, juste pour, à cette occasion, c'était le couronnement de la reine Elisabeth. Mais il n'y avait qu'une chaîne, la 1.
Ça laisse du temps pour se rencontrer, pour se parler.
Tout à fait. Puis on se bouffait pas le nez pour savoir quel programme on allait regarder, il y en avait qu'un.
C'est vrai.
Mais tu sais, souci.
Ce que tu décris, c'est aussi vrai dans nos propres familles. C'est-à-dire que moi, je te donne l'exemple, je viens de déménager dans une maison intermédiaire, on n'a pas encore Internet. Et ben, on se retrouve devant un DVD, toute la famille.
Et ben, c'est bien.
Et ben, c'est super. Mais parce qu'on a une panne d'Internet, c'est peut-être à souhaiter, tu vois. Une grosse panne d'Internet généralisée.
Ah non, je ne pourrais plus travailler, ma généalogie, ça serait terrible.
Et oui, ça en apporterait des inconvénients aussi. C'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre. Sûr. L'idée, c'est de trouver l'équilibre. C'est ce qu'on essaye, en tout cas, petit à petit, on essaye de mettre notre pierre à cet édifice, tu vois, en faisant des soirées qui soient des vraies soirées de proximité, assez faciles à organiser, proches des gens, puis c'est au cœur des villages, qui parlent de leur village, tu vois, pour essayer de les faire rencontrer autour de ce bien commun.
Mais il y en a qui essayent. Très récemment, j'ai eu un message, via Internet, parce qu'il marche, de quelqu'un qui organisait une fête des voisins sur la place. Bon, mais on ne pouvait pas y aller, c'est sûr. Mais cette personne, je lui ai répondu d'ailleurs, en disant que c'était vraiment une très belle idée, que je regrettais beaucoup de ne pas pouvoir participer, mais qui m'a dit « j'espère bien qu'on pourra se rencontrer à une autre occasion ». Et ça, je compte bien le faire.
Ben, vous pouvez l'inviter aussi aux soirées Nos Lieux Enchantés.
Surtout qu'elle habite sur la place, donc
c'est parfait.
Notre première loge.
C'est un prétexte idéal.
Et je ne la connais pas, hein. Coup par mail.
Mais il y a ça, tu vois, il y a cette volonté. La fête des voisins, c'est devenu une tradition.
Ben oui, c'est bien.
Qui monte. Il y a le phénomène aussi des implications dans les élections municipales. Il y a eu plein de listes de gens qui n'étaient pas des politiques, des partis, tu vois, des listes. Ouais. Donc ça, c'est aussi la preuve que les gens veulent se réimpliquer aussi dans leur local.
Ben ici, ce n'était pas tellement le cas. Hein. Non. Il n'y a eu qu'une seule liste et je sais que notre Françoise a eu un peu de mal à arriver à attirer suffisamment de personnes.
Ça dépend certainement aussi des contextes, des tailles des villages aussi.
Peut-être, oui.
Ce qu'on aime beaucoup dans ces causeries, c'est que notre invité est le mot de la fin.
Je trouve que vous avez là une belle initiative, hein, et que c'est très bien, vraiment, je vous félicite. Et j'essaierai de faire un tour à votre soirée. Voilà, et je vais inviter toutes les personnes que je vais croiser à venir, bien évidemment.
Cette causerie a été réalisée par la Compagnie des Histoires en Musique, en partenariat avec la commune de Beauvallon et la communauté de communes du Pays Mornantais.